On est à la lettre d'Aleph, je pense.
Oui.
Mais toujours sur ce travail pour essayer de comprendre ce que veut dire Anochi Hashem Elokecha dans Aseret HaDibrot. Alors maintenant, on procède un petit peu différemment. Ravacha et Rabbi Hanina Patachbo. Ah, c'était ça que j'étais. Avacha, il a commencé à expliquer, sans préciser, il va prendre pour essayer de savoir de quoi on parle. Il prend un passou dans Tehilim. Dans notre tradition, peut-être en traduction, c'est plus complet parce qu'en araméen, c'est seulement une partie du verset. Ce qu'ils ont traduit, on n'a plus pour nous expliquer. C'est 57. Le passouk complet dans Tehilim, il dit Shim'a ami va'adabera. Écoute mon peuple et je vais parler. Israël va'idabach. Israël, sous-entendu, écoute Israël et je vais témoigner sur toi. Elohim Elokecha Anochi. Je suis Elohim, mais je suis aussi Elokecha. J'accepte d'être Elokecha bien que je sois Elohim. Donc c'est avec ce verset-là qu'il va attaquer notre... qu'il va essayer donc de clarifier Anochi Hashem Elokecha. Patach bo shima ami vadabera. Et alors, c'est ce qui est écrit ici en anglais aussi, c'est marqué... vous avez une note en anglais qui dit que bon, il dit qu'en fait, il y a un texte, il y a une partie du texte qui se trouve peut-être plus explicite dans la Psikta, un autre Midrash. Mais bon, le nôtre, il est comme ça. Et ça veut dire ici que dans un commentaire, c'est dans un commentaire de, dans une autre, un autre type de Midrash, un commentaire d'Aseret HaDibrot, où est-ce que j'ai vu ? C'est... dans le Etz Yosef,
dans le Marzout.
Marzout aussi.
Ouais.
Oui. Lui et le Marzout, ils donnent les deux. Comme ils disent, comment chez Katou Baseret Adibrot, chez Yesh Midrash, donc dans la colonne de gauche, oui, du Marzout. Yesh Midrash. Qui a été composé spécifiquement sur les Aseret HaDibrot, sur les 10 commandements, les 10 paroles. Et ce verset-là de Tehilim, il sert là-bas d'introduction. Mais nous ne l'avons pas. Ou bien le coup de Tehilim, Barichut. Mais il donne les adresses où on retrouve ce midrash-là. Le midrash, dans sa totalité, on ne l'a plus. C'est ce qu'on dit ici dans les petites notes qui sont. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il est dit Amar Rab Shimon ben Yochai, Amar Lahem Akadosh Baruchu le Israël. Rab Shimon a expliqué qu'Akadosh Baruchu a dit au Bnei Israël, Eloka ani al kol bay olam. Je suis le Dieu de toutes les créatures du monde, en fait. toutes, kol ba'e olam. Aval lo yichadti shemi ela alechem. Mais je n'ai particularisé mon nom, c'est-à-dire j'ai accepté qu'on décline mon nom, si vous voulez, que par rapport à vous. Il n'y a qu'à vous que j'ai dit Elokecha. Eini nikra Elokei ovdei kochavim ou mazalot, ela Elokei Israël. Donc Hachem dit au clan d'Israël, regardez ce que je vous donne en quelque sorte, voilà ce que j'accepte de faire pour vous. Ce que je n'ai pas fait pour les autres créatures. On a l'impression que le début, quand il dit Eloka ani al kol ba'e olam, ça parle beaucoup plus que quand il dit mais je n'ai pas singularisé mon nom, c'est-à-dire j'ai pas rapporté mon nom sauf à vous. Bon, jusque là ça va, mais après quand il dit je ne suis pas appelé comment est-ce qu'il faut dire Elokei ovdei kochavim ou mazalot, le dieu des idolâtres, on comprend bien qu'il n'est pas le dieu des idolâtres. Le problème, c'est qu'il n'est pas appelé le dieu des peuples, de tous les autres peuples. Si on mentionne explicitement qu'ils sont idolâtres, on comprend qu'Hachem ne se soit pas... On comprend tout de suite pourquoi il ne l'a pas fait, si on veut. Si on dit simplement, Hachem, je ne suis pas appelé le dieu des Égyptiens, alors on n'entend pas la connotation idolâtre, mais si Ovdei Kochavim ou Mazalot, les serviteurs, les gens qui adorent les étoiles et les planètes, etc., évidemment qu'il ne va pas s'appeler comme ça. Bon, c'est un peu difficile, le texte ici. Je ne suis pas appelé, au lieu de marquer Ovdei Kochavim, on aurait dû dire je ne suis pas appelé le dieu des Égyptiens ou le dieu des Syriens ou le dieu de la Mésopotamie ou des Français. Alors c'est oui, ça suppose que les autres sont. On pourrait, s'il avait dit quelque chose, ce serait comme s'il disait Ovdei Kochavim, mais c'est trivial. Au sens de, évidemment qu'il peut pas être appelé. C'est un chidouche qui s'appelle pas, qui dit. Il dit bon, le chidouche est, j'ai accepté d'être appelé Elokei Israël. Je n'accepte pas d'être appelé, ou je ne dis pas que je suis le dieu des. Je ne sais pas moi, des Babyloniens, ou de, etc., où la référence à l'idolâtrie n'est pas explicite. Quand elle est explicite, on comprend. Enfin, c'est déjà dans Kol Ba'e Olam. Kol Ba'e Olam, ça veut dire toutes les créatures du monde. Pardon, c'est oui. Oui.
Il ne le dit pas et il ne le fera jamais pour les autres peuples.
Oui, vous pouvez entendre comme ça le côté définitif de la chose. Quand les autres peuples le reconnaîtront, on verra si est-ce qu'il sera appelé le dieu de ces peuples aussi. À la fin de l'histoire, il vaut mieux le reconnaître. Oui.
En fait, ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce
yichud là, cette singularité, ce lien particulier, oui. Donc c'est. Non, mais c'est. Oui, c'est juste. Mais ça veut dire que si Elohim, c'est justement ce qu'on a dit, c'est le nom divin qui peut se décliner. Le tétragramme, il ne se décline pas. Bon, il n'y a pas Hachem de... C'est même pas marqué Hachem d'Israël. C'est Elokei Israël, toujours. Donc, particularisation, en fait, cette, on va dire cette hashgacha, cette surveillance, cette relation particulière, effectivement, Hachem dit au clan Israël, et c'est ça qu'il faut entendre dans Anochi Hachem Elokecha, est-ce que tu entends bien le privilège que je t'ai donné d'accepter d'être appelé Elokecha? Je me présente comme Elokecha. Je suis ton Dieu, tu as entendu, et je n'ai fait ça pour personne d'autre. Regarde la dimension qu'il y a, hein, la dimension d'amour qu'il y a là-dessus. Dans le Etz Yosef, il dit Venikra Elokehem de Israël, c'est Michibato et Israël, par amour d'Israël. Oui.
C'est pas pour laisser justement une porte à ceux qui ne sont pas.
Oui, je vous dis la vérité, je ne sais pas du tout si toutes les versions elles portent ici Elokei de Ovdei Kochavim, etc. Ou s'il y avait d'autres, on pourrait dire d'autres noms, des noms de peuple, quoi, qui ne mettraient pas. Parce que ça m'a l'air tellement trivial, et si vous voulez, ça trivialise par rapport à ce qui a été dit Kol Ba'e Olam. Kol Ba'e Olam, voilà, toutes les créatures, tous les gens qui sont dans le monde. Eh bien, à aucune de ces personnes, aucune de ces peuplades, je n'ai accepté qu'on puisse dire je suis le Dieu de ce peuple. Sauf pour vous. Ela Eloke Israël. Amar Ablevi, Shnei Dvarim Shalou Israël Milifne Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël ont demandé deux choses à Hachem. Sheiru Kvodo, voir sa gloire, Yishmeu Kolo, et entendre sa voix. Vayu Roim et Kvodo, Veshomim et Kolo. Et c'est Hachem le leur a accordé. Ils ont vu sa gloire, ils ont entendu sa parole. Comme c'est marqué dans le pasuk, Vatomru hen eranu Hachem Elokeinu et kvodo ved godlo. Et c'est aussi marqué ved kolo shamanu mitoch haesh. Effectivement, le verset rapporte que les Bnei Israël reconnaissent. Nous avons vu sa gloire, sa grandeur, et entendu sa voix. Mais ils n'avaient pas la force de se tenir debout, enfin de supporter cela. Chez Kivan, chez Baoul et Sinaï, quand ils sont arrivés au Sinaï, Venigla Laem, et qu'Hachem s'est dévoilé à eux, Parcha Nishmatam al Shediber Imahem. Littéralement, leur âme s'est envolée de ce qu'il leur a parlé. C'est marqué dans Shir HaShirim, Nafshi Yatsa Bedabro. Mon âme est sortie lorsqu'il a parlé. Avala Torah Biksha Alehem Rachamim, Milifne HaKadosh Baruch Hu. Mais c'est la Torah, c'est curieux ce que ça veut dire. La Torah a demandé qu'Hachem invoquer la tendresse divine en disant Yesh Melech Masibito ve Oreg Anshebeto. Est-ce qu'un roi peut, au mariage de sa fille, est-ce qu'il va tuer les gens de sa maison? Kola Olam Kulo Smechim Ubanecha Metim. Le monde entier est en joie et tes enfants meurent. Miyad Chazra Nishmatan. Immédiatement, leur neshama est revenue. Shenemar, Torah Hashem Tzmima. La Torah d'Hashem, elle est entière, elle est complète. Mais Shivat Nafesh, elle ramène le Nefesh, elle ramène l'âme. Alors, Amar Ablevi, Vechi Lo Haya Galoui Lifnei HaMakom, Est-ce qu'Hachem, est-ce que c'était pas clair pour Hachem? Sheim hu mare kvodo l'Israël ou mashmian kolo sheinan yicholim la'amod? Est-ce qu'ils ne savaient pas que s'il leur dévoile sa gloire et qu'il leur fait entendre sa voix, qu'ils ne pourraient pas le supporter? Et là, tzafa kadosh baruch hu shein atidin la'asot avodat kochavim. Mais Akadosh Baruch Hu a bien vu que dans le futur, ils allaient être idolâtres, pratiquer l'idolâtrie. Shelo yu omrim. Alors, shelo, ils ne voulaient pas que les Bnei Israël disent ilu eranu et kvodo ve'et godlo ve'ishmiyanu et kolo lo ayinu osim avodat kochavim. Vekach ne'emar shima ami va'adabera. Écoute mon peuple, je vais parler. On va essayer de voir comment, qu'est-ce qu'il veut dire ici. Bon, le début, on a compris. Le début, c'est Hachem. Je t'explique pourquoi c'est marqué Anochi Hachem Elokecha, pour mettre en évidence que je regarde Israël, combien j'ai manifesté d'amour à ton égard. J'ai accepté que mon nom soit attaché au tien, en quelque sorte. Bon, jusque-là, on comprend bien. Après, Rabbi Lévi, il vient et il dit, les Bnei Israël, ils ont demandé deux choses. Alors le Etz Yosef, il dit, c'est ce qui est écrit dans le pasuk Vayaged Moshe Divrei Ha'am El Hashem. Moshe Rabbeinu a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Sheratzu lishmoa mipiv ve'amru retzonenu lirot et malkeinu. Au départ, il a dit, on veut entendre la voix d'Hashem. Et ils ont dit, nous voulons voir notre roi. Comme c'est marqué dans un commentaire d'un midrash sur Shir HaShirim. Alors, on veut voir sa gloire. Alors, toujours le Etz Yosef dit, qu'est-ce que ça veut dire, on veut voir sa gloire? Bref, c'est intéressant. Kloma, Shiyasigu Amitat Metziyuto Vishtal Shloot Ametziyut Va'anagato Mimenu Kemusag Leneviye Ha'emet. Donc, ils ont voulu accéder à ce à quoi accèdent les prophètes. C'est-à-dire, ils voulaient voir la réalité d'Hachem, en quelque sorte, et ils voulaient savoir comment Hachem gouverne le monde en quelque sorte, comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce que les choses en arrivent jusqu'à la gouvernance du monde, comment ça fonctionne, comment Hachem de si haut en quelque sorte, comment est l'organigramme, comment ça circule en quelque sorte, cette direction du monde qui vient d'Hachem. D'autres termes, c'est d'après ce que lui dit, ils ont voulu être quasiment des prophètes. Ils veulent accéder à la prophétie. La prophétie, ce serait ça. Ce serait effectivement d'expérimenter, en quelque sorte, si on peut parler comme ça, la réalité divine et de savoir comment, effectivement, de cette réalité, comment depuis le trône divin est-ce que Hachem gouverne, en fait. Donc ça, ils l'ont demandé à Hachem. Non, mais je ne crois pas que c'est par la prophétie qu'on cherche. Mais que les prophètes, dans l'expérience qu'ils font, ils savent. Le prophète, il a des missions à remplir. Mais justement, comme il est, on dit, missionné par Hachem, quelque part, et qu'il voit comment les choses se déroulent, comment elles arrivent jusqu'à lui, c'est ça que... C'est pas du tout que c'est ça le prophète. Mais que les prophètes, eux, comment elle leur vient la prophétie, d'après ça, les Israël qu'on pensait, ou ils pensent toujours, je ne sais pas, que c'est comme ça que fonctionne la prophétie. Que d'être prophète, ça obligatoirement, on doit bien savoir que ça vient d'Hachem. Sinon, comment tu penses que... Comment,
si, inspiré directement par Hachem, c'est ça
peut-être. Oui, mais c'est ça, inspiré par Hachem. Donc d'où tu sais que tu es inspiré par Hachem et que ce n'est pas tes fantasmes qui te... D'accord ? D'où tu sais que tu n'es pas cinglé ? Je veux dire, des gens qui disent « Dieu m'a parlé, il m'a dit », il y en a pas mal, il y a des maisons spécialisées pour ça. Donc c'est pas... Et comme ils disent, ve ishmeu kolo belo emtsai. Ils ont voulu entendre la voix divine sans intermédiaire. Et Hachem a accédé à leur demande. Il a agréé la demande. Et les bnei Israël eux-mêmes, dans le Sefer Dvarim, ils en témoignent. Ils disent: Hachem nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix venant du feu du Sinaï. Et seulement, il y a un problème. C'est qu'au fond, ce qu'ils ont demandé et qu'il leur a été donné, ils n'avaient pas les moyens de le supporter. Ils ont demandé quelque chose qui était au-delà de leur capacité. Et donc la question qui va se poser, c'est, alors puisque c'est au-delà, pourquoi est-ce qu'Hachem a agréé leur demande et leur a donné? Ils savaient bien que ça n'allait pas marcher. Ils allaient mourir. À la limite, c'est un pasouk, qui l'oïrani Adam Bachai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est une expérience qu'ils ont faite, mais dans cette expérience-là, on ne peut pas vivre. Mais c'est comme, ça se présente comme si, bon ben, ok, au moins avant de mourir, vous avez fait cette expérience. Alors, il meurt.
Ça fait penser à moi, ça me fait penser que moi, une destruction des mondes avant qu'on arrive au monde.
Oui, mais ces mondes-là, ils n'ont rien donné du tout. Tandis qu'ici, ils ont, voilà, ils ont Hachem s'est montré, ils ont fait l'expérience.
Justement, j'avais entendu que on avait ramené en cours. Pourquoi est-ce que Hachem n'est pas capable de faire tout de suite le monde définitif? À quoi ça sert de faire des mondes pour les détruire, les construire, les détruire, et ainsi de suite? Et donc, l'idée, c'est que même dans la destruction qu'il y a eu, il reste toujours quelque chose. Je ne sais pas s'il reste toujours quelque chose que ce monde-là, où on est, a tenu. Sinon, on n'arrivait pas tellement à expliquer pourquoi la nécessité de construire.
Moi, pour l'instant, j'explique un petit peu différemment en disant que C'est pour qu'on comprenne le statut du monde, en fait. C'est pour mettre le Maboul dans une chaîne d'événements. C'est une progression. Le déluge, c'est une quasi-destruction. Et Hachem dit, je ne ferai plus de déluge. Mais Hachem envisage aussi quand même de détruire le peuple juif. Mais pas complètement, je continuerai avec Moshe. Moshe n'a pas été d'accord, mais on voit très bien que les Bnei Israël sont... Il y a 80% des Bnei Israël qui meurent en Égypte, finalement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le processus du monde, il y a une évolution, une sélection qui se fait. Et ce que les Chachamim ont dit quand ils ont dit qu'il a créé des mondes et qu'il les a détruits, c'est pour donner pour inscrire justement ça dans une progression. Que avant, il y avait des mondes qui ont été construits et détruits, et que c'est comme si à la dernière destruction, Hachem a dit ok, je détruirai plus complètement, et il détruit Maboul, c'est-à-dire presque complètement, et puis après il y a des destructions successives concernant le clan Israël, 80% des Bnei Israël, puis ensuite suivant les fautes qu'ils font, il y a 22 000, etc. 22 000, c'est chaque fois c'est le nombre minimum de gens pour constituer le clan Israël. Ribevot alfei Israël. Donc c'est une destruction, mais pas complète. Et donc pour fabriquer la chaîne, si vous voulez, qui mène à cela, Chazal l'ont expliqué, il a construit des mondes et il les a détruits. Et donc c'est important de savoir que ça s'inscrit, qu'il y a une progression de l'humanité en fait, qui se fait par destruction des mondes. Il y a un moment où ça ne va pas. Les hommes doivent savoir que le monde peut être détruit. Mais qui dit ça? Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué, il les a détruits. Quand on dit détruit, il ne reste plus rien normalement. Oui, non, c'est tout à fait. Ça s'entend très bien, mais.
Et là, on pourrait dire, donc, pour faire un rapprochement, dire que on n'a pas pu en vendre, on est mort, mais on a quand même gardé, on a quelque chose de ce qu'on a entendu.
Oui, non, mais le problème, c'est qu'ils sont, morts, c'est terminé. Ils sont morts. Bon, maintenant, c'est la Torah qui vient. Alors, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle demande Rachamim. Et elle donne les arguments, elle dit mais ça va pas, tu maries ta fille, est-ce que quand quelqu'un, d'abord c'est comme on dit, c'est comme le mariage. De quel mariage s'agit-il? C'est le mariage de quoi? Quand est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts quand Hachem leur parle à Matan Torah. Hachem leur donne la Torah, et alors on considère que c'est quoi? C'est le mariage de qui avec qui? D'Hachem avec le clan Israël. Donc c'est quoi? Hachem, c'est le père qui marie sa fille. Et puis ensuite, il détruit qui? Mais tout le clan Israël, il ne détruit pas. Ce n'est pas les gens de sa maison qu'il a détruit. Ce qu'il a détruit, c'est tout, c'est la Kala. Si Israël est la Kala. Il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mariage de sa fille et il détruit. Ok, imagine, il tue tous les gens. Sauf le marié... Et sa fille, mais en vérité, ça veut dire il la marie, puis ensuite il tue tout le monde, y compris la mariée et le. C'est ce qu'il dit, c'est pas possible. Ça va pas. Et deuxième argument, le monde entier est en joie, et tes enfants. Meurt. De quel. Qui est-ce qui est en joie? Qui? Les peuples sont en joie à Matan Torah? Le Etz Yosef, il commente en disant Yesh Melech Masibito, est-ce qu'un roi donne sa fille en mariage? C'est-à-dire chez la Torah, chez Nitna l'Israël, qui bat Melech, chez Iset la Baal. Elle est donc, la Torah c'est la fille du roi, le mari c'est le clan d'Israël. Alors ensuite quoi, il tue les gens de sa maison, mais il a tué le mari aussi. Hein. Les gens de sa maison c'est le mari. C'est Ibn Israël qui meurt. Ce qu'ils disent, c'est presque un euphémisme par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Ils auraient dû dire, est-ce qu'un roi donne sa fille en mariage à quelqu'un, puis ensuite il tue le marié? Je conviens dire que c'est là l'Israël, les mariés. Le marié. Donc c'est peut-être une forme polie du Midrash, quoi, non? Puis après on dit Kola Olam, Kulo, la totalité du monde, Smechim, sont en joie. Alors lui il commente Hem Chelke Olam Atarton, Asher Pachadou, Sheyifsedou, Imlo Ikabru Israël et Sheyifsedou et la Torah, Veshakatou, Keshekibloua, Kedeita Bereshrut Rabba. Ils disent c'est les parties du monde d'en bas. C'est en fait ce qui s'est passé. C'est compliqué. Il dit que le monde, effectivement, aurait été détruit si Israël n'avait pas accepté la Torah. C'est marqué, c'est la fameuse drasha sur Yom HaShishi, oui. Pourquoi est-ce que c'est écrit Yom HaShishi, vous souvenez? Pourquoi est-ce que c'est écrit Yom HaShishi et pas comme les autres jours où on dit Yom Chamishi ou Yom Revi? Yom HaShishi, c'est le sixième jour. Quel sixième jour? Le sixième jour, c'est parce que il y aura un autre sixième jour qui jouera un rôle fondamental, c'est-à-dire le 6 Sivan, qui est le jour de Matan Torah. Et si les Bnei Israël n'acceptent pas le Six Sivan de la Torah, alors Hachem dit, je ramène le monde au Tohu Vavohu. Donc la création du monde, elle était suspendue à l'acceptation par les Bnei Israël de la Torah, le Six Sivan. C'est ça le remès de HaShishi. Ça dépend des hommes, en l'occurrence du clan Israël. Et donc le monde était suspendu, le monde savait que sa pérennité dépendait de l'acceptation par les Bnei Israël. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ici, les Bnei Israël, la Torah, ils l'ont acceptée. Ils acceptent la Torah. Mais seulement ils sont morts. Ou alors tu dis, quand on dit, est-ce qu'on dit que quand ils n'ont pas, comme ils n'ont pas tout entendu, donc on dira qu'ils n'ont pas encore vraiment accepté la Torah. Et s'ils n'acceptent, ils n'ont pas encore accepté la Torah parce qu'ils en sont morts, alors eux, le reste du monde va mourir aussi. Mais comment on peut dire qu'ils sont joyeux? Smechim, c'est marqué. Voyez, ils avaient peur et ils se sont tus quand les Bnei Israël, ils étaient tellement attentifs à ce que les Bnei Israël acceptent la Torah, ils vont se taire, le monde est suspendu en quelque sorte, dans un total silence, un silence du monde, pendant que les Bnei Israël reçoivent la Torah et l'acceptent. Ça c'est connu, ça c'est le Midrash qu'il cite ici.
Du monde
d'en bas, le monde physique. Chelke olam atarton. Les différentes parties du monde d'en bas, qui savaient que ce monde ne tiendrait pas si les Bnei Israël n'acceptaient pas la Torah. Mais alors ils sont smechim, ça voudrait dire, ils sont tous, les Bnei Israël ont accepté la Torah, donc tout le monde est joyeux, Et puis par contre, les Bnei Israël eux-mêmes, qui sont tes enfants, eux, ils meurent. La joie, ça veut dire ils sont en joie puisqu'ils avaient peur. Ils ont fini d'avoir peur, quelque part. Puisque les Bnei Israël ont accepté la Torah. Ils ont écouté, ils ont accepté. Donc, deux arguments. Si on essaie de dire quels sont les arguments en question, comment est-ce qu'on pourrait les caractériser, qu'est-ce que... Qu'est-ce que dit la Torah? Pour argumenter et obtenir la tendresse divine, pas de Moshé là. C'est ce qu'il demande. Alors, d'abord, ce qui est un peu surprenant, c'est que cet argument-là, c'est un argument de logique. Pourquoi il faut un argument de logique pour obtenir un Rachamim? Si c'est de la logique, c'est pas dans le din. Ça n'a pas de sens. C'est un argument, c'est incohérent, ce que vous voulez dire, c'est une incohérence à donner la Torah et en même temps à tuer ceux qui reçoivent la Torah. Donc c'est la Torah qui est en cause ici. Il dit, mais ceux qui m'ont accepté en quelque sorte, ils sont morts maintenant. Et de m'accepter, c'était la condition de survie du monde. Et le monde survit, mais ceux qui sont les artisans de la survie du monde meurent. Et comment est-ce qu'on peut entendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le monde entier est en joie et les Bnei Israël sont morts. Ça voudrait dire quoi? La Torah a été donnée, elle a été acceptée par les Bnei Israël. Bon, ça c'était ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien de plus à faire avec la Torah. Il ne s'agissait pas du tout d'étudier, de vivre selon la Torah. Il s'agissait de dire, on a accepté. C'est la réussite de la Torah, elle a été acceptée. Alors je voudrais fabriquer un peuple qui a accepté la Torah. Et on tire un trait et on continue avec les autres peuples, finalement. Oui, bon, enfin ici on dit simplement que leur neshama s'en est allé. C'est... Oui, c'est ça. C'est comme si tout le but de l'exercice était d'aboutir à ça. Voilà, ben on a abouti. C'est la neshama, elle tire sa révérence. Ok, c'est fait. J'étais là pour ça. Ça c'est fait. On a réussi. Pardon ?
La question en fait c'est pourquoi revivre ? Si c'est un aboutissement.
Oui, justement. C'est-à-dire. Mais d'abord il faut comprendre en quoi est-ce qu'on va considérer que c'est un aboutissement ?
Un mariage c'est un début.
Pardon ?
Un mariage c'est un début.
Oui, mais si tu tues le khatan, ça ira pas, c'est terminé. Ça veut dire qu'il fallait simplement que le mariage ait eu lieu. Et il restera qui dans le monde ? Ben ceux qui n'ont pas accepté la Torah. Olam Smechim, le monde continue, n'est-ce pas ? Mais les Israël, Banecha, sont morts. Pardon ?
Quelqu'un a accepté la chanson. Bien plus parmi les chansons.
C'est ça. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'on l'accepte. Après, on n'a pas besoin de vivre en fonction. Personne ne va vivre selon la Torah. Puisque ceux qui ont accepté sont morts.
Ils ont accepté le programme. Ils ont accepté le programme.
C'est ça. Donc ça voudrait dire que d'une certaine manière, on pourrait entendre la chose. Tout ce qu'on demande, c'est d'accepter le principe. Après, concrètement, ça n'a pas tellement d'importance.
C'est de connaître aussi la connaître.
Oui, ils ont fait l'expérience, mais ils n'ont pas vécu en fonction de ça.
Non, c'est à l'aboutissement dans le sens où on connaît un certain niveau de connaissance.
Oui, mais c'est ça. Donc le problème, c'est donc que la Torah serait à ce moment-là pas du tout un mode de vie. Mais un mode de vie rêvé, je ne sais pas, il va parler comme ça. D'ailleurs, si vous ne laissez pas tellement loin, il y a beaucoup de chazals qui disent que si les Bnei Israël avaient effectivement accepté, entendu les Aseret HaDibrot jusqu'au bout, eh bien, l'histoire était terminée. Moshe Rabbeinu aurait été Mashiach, on serait entré en Eretz Israël, terminé. Pas de Vaudor, etc., tout est terminé. Et Moshe Rabbeinu aurait été le Mashiach, donc l'histoire était terminée. Il y a cette idée qui est là, que, au fond, ce qui est important, c'est de vouloir, en fait. Après, est-ce que cette volonté, elle va pouvoir se réaliser face aux contingences matérielles, etc. Ça, c'est pas tellement important. C'est fini, le projet divin de créer un monde, voilà, il a réussi. Il voulait... Quoi ? Non, alors justement, quand on dit le Mashiach est arrivé, alors l'histoire est terminée, je sais pas, alors qu'est-ce qui commence à continuer ? Parce qu'après Mashiach, ça continue quand même. Jusqu'à Triat HaMetim, ça va continuer, jusqu'à Olam Haba. Mais ici, ça allait continuer, mais sans que ceux qui se sont engagés à vivre selon la Torah, ceux qui ont accepté la Torah, soient encore là, ils sont morts. Et ce serait satisfaisant. Oui, parce qu'est-ce qu'on a vu ? Ils ont dit, nous voulons, nous sommes d'accord, on accepte. Mais on n'a pas vu le début de la réalisation.
Là, vous êtes toujours dans des positions critiques. Vous êtes toujours dans des positions critiques.
Non, j'écoute ce que dit le Midrash. Oui, c'est ça. Il a, si tu dis que Hachem les détruit à partir de ce moment-là, avant le Rachamim, mais non, ça veut donc dire que même quand il y aura eu le Rachamim, et qu'ils vont survivre, mais Alpidin, ça suffisait. Le din, c'était terminé. Ça suffisait. On n'a pas besoin de plus. Ça ressemble, la Gemara, elle rapporte cette histoire de Eliezer ben Dourdaya, qui était, dont la Gemara dit, c'était un bonhomme, il n'y avait pas d'avéra qu'il n'avait pas faite. C'était un type, il avait tout testé. Et puis un jour, il a décidé de faire tshuva. Alors la Gemara rapporte qu'il s'est adressé, il a cherché de l'aide. Et le Midrash dit, il a demandé, autour de lui, personne ne dit, on ne peut pas t'aider, on est occupé, tout juste. Alors on dit, il a demandé aux cieux, il a demandé à la terre, il a demandé aux montagnes, il a demandé à la mer. Et ils ont tous répondu, tu sais, nous on a tout juste ce qu'il faut, on ne peut pas t'aider. Alors il a pris une position fœtale, et il a pleuré, il a crié quand il a pleuré, et il en est mort. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui a dit « Rabbi Eliezer ben Dourdaya est invité à Olam Haba. » La Gemara dit que Rabbi Noah Kadosh, l'auteur de la Mishnah, il était là, il a dit « Non seulement on les accepte, mais en plus on les appelle Rabbi. » Donc ça veut, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand quelqu'un fait tshuva, on le met à l'épreuve. Est-ce que sa tshuva le tient? D'accord, voilà, si Yom Kippour. On va regarder si, qu'est-ce que tu fais le lendemain de Yom Kippour. Et après, etc. On va regarder si effectivement tu as changé en fonction de ta tshuva. Tu as vraiment fait tshuva, on va te mettre à l'épreuve. Lui, il n'a pas été mis à l'épreuve. Ça veut dire que. Non, mais. Ça veut dire qu'il a réussi. Il a une vie complètement pourrie, il a fait tshuva, et qui nous dit que, concrètement. Ça veut dire que ça peut suffire.
C'est,
hein?
On a dit il y a quelques...
Oui, v'chai ba'em. Normalement, il faut vivre avec ça. Ben lui, sa vie, ça a été... La vie, c'était le moment où il a tout accepté, c'est-à-dire que Hachem, qui sait ce qui se passe, il a jugé que dans cette acceptation-là, il y avait tout. C'était tellement sûr qu'on n'a pas besoin... Hachem, il sait ce qui se passe. Donc c'est pour nous. Ok, pour lui c'était clair. On a l'impression que ça se passe comme ça. Les Israélites ont accepté la Torah, ils en sont morts, et Hachem, voilà, bon, Hachem est content, ça, c'est bien. Et c'est la Torah qui vient et qui dit, mais ça, c'est pas possible. Tu tues le... Tu maries ta fille, enfin ça revient, c'est un mariage, et on tue le Khatan. Parce que tout l'intérêt, c'est que quelqu'un veuille bien marier, veuille bien épouser la fille du roi. C'est tout ce qu'il voulait, le roi. Quelqu'un dit, je veux ta fille. Après, il n'est pas tout nécessaire qu'il vive avec sa fille, il peut mourir. On n'a plus besoin de lui. Sa fille, oui.
De la même façon, si on peut dire, un artiste crée une œuvre. Cette œuvre, il va la créer, il va la modeler, et puis ensuite, il va la vendre. À chaque fois qu'il se sépare, même en la vendant, même en ayant une compensation financière, ça, quelque part, ça lui fait mal.
Oui, mais il ne va pas tuer l'acheteur, non? Mais le Midrash par la suite, là, il demande Est-ce qu'Hachem ne savait pas qu'ils allaient en mourir? Oui, ils savaient qu'ils allaient en mourir. Oui, ils ne savaient pas peut-être. Ils savaient, ils vont en mourir. C'est nécessaire. Mais alors après, ce qui est difficile à comprendre, c'est que Hachem donne comme argument pourquoi je l'ai fait quand même, puisqu'ils allaient en mourir. C'est parce que j'ai bien vu qu'ils allaient fauter. Mais s'ils meurent, ils ne fauteront plus. Ils sont morts, par définition, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils fautent. Donc en vérité, ça veut dire que Hachem savait très bien que bien sûr, ils vont ressusciter. Et ils vont fauter. Ça veut dire que leur engagement, d'accord, c'est Yom Kippour, d'accord, on ne fera plus. Hachem, il sait très bien que tu vas te casser la figure. Seulement, c'est un drôle d'argument, il dit, j'ai fait ça pour qu'il ne puisse pas dire. Nous, on lui avait demandé de se manifester, de nous montrer sa gloire, de nous parler. Il n'a pas voulu le faire. C'était trop abstrait, etc. Alors, on est allé du côté de l'idolâtrie, parce que là-bas, au moins, on voyait et on entendait. Pour qu'il ne puisse pas dire cela, alors Hachem leur a montré. Voilà, eux-mêmes, c'est marqué dans Dvarim, sur la cité, oui, les Israël ont dit, on a vu, on a entendu, donc ils ne pourront pas dire, il n'y a pas cet argument-là pour aller du côté, pour justifier leur idolâtrie. Alors il y a deux problèmes, d'accord, ils n'avaient pas cet argument-là, ils ont quand même fait l'idolâtrie. D'une part, et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem savait? Il sait tout. Mais pourquoi on présente les choses comme si c'est la démarche de la Torah? La Torah elle-même veut que les Bnei Israël vivent. C'est la Torah qui incite, qui appelle à la tendresse. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle obtient Biksha Rachamim? Elle demande la tendresse divine. La Torah, maintenant, elle parle. Du coup, c'est la Kala qui parle pour qu'on ressuscite le Khatan. Pour que le... Oui, ça. La Torah, donc ça veut dire quoi? En fait, la Torah, elle doit être étudiée. C'est pas seulement que nous avons une obligation d'étudier la Torah. La Torah doit être étudiée. Et parce que la Torah doit être étudiée, alors on a ces fameuses Gmarot qui disent que c'est le meilleur qui doit étudier dans l'histoire du père et du fils. Où la Gmara, elle rapporte qu'il y avait un père qui avait... Il avait l'argent pour envoyer son fils à la yeshiva, mais il ne pouvait pas y aller lui. Donc il a envoyé son fils à la yeshiva, et son fils là-bas à la yeshiva... Bon, il n'a pas vraiment réussi dans le limoud. Il ne faisait pas de mauvaises choses, il faisait d'autres choses. Des mitzvot, des trucs comme ça. Alors le père lui a dit, écoute, ça ne va pas. Si tu n'étudies pas, alors tu reviens, c'est toi qui fais le business, et moi je vais étudier. Donc on voit que ce qui était important, j'ai toujours entendu de mon maître comme ça, ce qui est important c'est que la Torah soit étudiée par celui qui est capable de le faire. C'est pas qu'on a une obligation de permettre à son enfant de le faire. C'est à lui, il faut lui enseigner la Torah, mais après c'est celui qui étudiera le mieux. Parce que l'essentiel c'est que la Torah soit étudiée. C'est pas d'étudier la Torah, c'est la Torah doit être étudiée. Et donc là, la Torah, elle demande à être étudiée. Eh bien, si tu le tues, le Khatan, personne ne va étudier la Torah. Et c'est à ce titre, et ça s'appelle Rachamim. Ça, ça s'appelle obtenir la tendresse divine, et qu'au titre de la tendresse, les Bnei Israël revivent. Non, justement, c'est ce que je vous dis, c'est que ce qu'on a essayé d'expliquer avant, c'est de dire que d'une certaine façon, ce qui était important, c'est qu'on accepte la Torah. Vivre la Torah, une fois qu'on a accepté, l'essentiel est fait. Qu'ensuite on n'arrive pas vraiment et on soit... D'accord, c'est pas bien du tout, mais l'essentiel c'était d'accepter la Torah. Il faut s'habituer à cette idée, je pense. L'important de la Torah, hein. Alors, Volbe, dans les Pirkei Dat, il dit un truc comme ça à un moment donné. Il dit, tout ce qu'on peut nous demander à nous, c'est de vouloir. Je veux étudier. Après, il y a toutes sortes de difficultés, y compris celle du Yetzara et tout. Ok. Bon, bien sûr, il faut essayer de le vaincre et tout, mais l'important c'est de décider. C'est pas des velléités, c'est une vraie volonté. Toute connaissance. Je veux réellement. Je veux étudier. Je veux vivre selon la Torah. C'est fait. Après, ça ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ce cours dans le Pirkei Dat. Vous étiez là à ce moment-là. C'était assez fort. Il y a quelque chose de cela là-dedans, dans ce midrash.
On demande bien tous les matins la bracha pour la socle du Torah.
On demande, oui. On demande qu'Hachem nous aide à être socle du Torah.
Ça veut pas dire on est bon, on a accepté ou pas. Tous les jours, on.
Non, mais on veut. Non, il ne s'agit pas de dire je ne m'en occupe pas. Il faut renouveler ce. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Et... C'est pas que c'est pas important. C'est que. On pourrait dire, mais c'est rien du tout, l'acceptation, ça dépendra si tu vas le faire ou pas. Tout est dans l'acceptation réelle. On a l'impression que c'est comme si. On disait, bon, ben, c'est vrai, ça ne veut pas dire, c'est pas là où il y a une volonté, il y a une. Comment est-ce qu'on dit en anglais, il y a un pouvoir. Mais non, on ne peut pas toujours. Mais ce qui était important, c'est qu'il y ait une volonté. Dans la mesure où c'est Hachem qui vérifie que cette volonté est sincère, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que je me raconte des histoires. Je me suis transformé jusqu'à ce que je veuille. Et à ce moment-là, le fait qu'Hachem nous permette de vivre, c'est du rachamim, c'est plus du din. Parce que finalement, c'est comme si, d'après le din, bon, on a fait ce qu'il fallait. Non, parce que quand on parle de vouloir, c'est de vouloir étudier, vouloir vivre selon la Torah. Pardon ? Oui, c'est très difficile. On a une connaissance de ce que ça représente. On ne parle pas de quelqu'un qui s'engagerait à la légère. En toute connaissance de cause, c'est sûrement très difficile. Hein. Oui, tout ça, c'est. Donc, limite, c'est presque pas tellement important.
C'est pas si.
Vas-y, c'est difficile.
Pas de vouloir débuter, vous n'avez pas de parler de vouloir d'acceptation.
Oui, je veux accepter la Torah, l'étudier, la pratiquer. Je l'accepte comme Torah. J'accepte ça comme mode de vie. Mais voilà, je l'ai accepté, réellement, profondément. Bon, Le travail est fait, à la limite, bon, techniquement, il y aura des difficultés. C'est vrai que c'est parce que notre acceptation, elle est un peu bancale, que les difficultés nous empêchent réellement d'étudier. Si on veut vraiment ce que la Torah nous demande, on peut le faire.
On peut dire dans le sens aussi l'acceptation, c'est le but, la finalité.
Oui.
Une fois qu'on a atteint cette finalité,
c'est ça.
Mais comme vous avez dit que la Torah a besoin de s'appuyer sur le monde du paramètre, c'est-à-dire en fait de la vie, et la vie, ça nous permet, c'est une période de temps qui nous permet de.
Voilà, on pourrait dire comme ça. Seulement après, ça se renverse un peu, puisque on demande à Hachem, mais alors, tu savais bien qu'il ne pouvait pas le recevoir, il ne pouvait pas recevoir ce dévoilement-là que tu as manifesté. Ouais, c'est ce que Rav Lévi dit sur la deuxième la page, la Chinyoui. Il ne savait pas. Sous-entendu, bien entendu, il savait. Alors pourquoi il l'a fait? Et là, sa fin, Kadosh Baruch Hu. Hachem a vu le futur qu'ils allaient faire Avodah Zarah. Alors quoi? Alors il faut leur enlever l'argument. Tu t'es pas vraiment suffisamment montré à nous. Sinon on n'aurait pas fait. Alors qu'est-ce que veut dire le Midrash? Ici le Midrash veut dire que quand Hachem dit Hachem, Anochi Hachem Elokecha, Matan Torah, il veut dire, d'abord prenez conscience de la manifestation d'amour que je, à votre égard. Je vous aime. La preuve, je n'ai accepté d'associer mon nom avec aucun peuple, alors que je suis le Dieu de tous. Je suis Eloké de tout le monde. Et pourtant, je n'ai pas accepté de particulariser mon nom. Oui, mais enfin là, on voit que Hachem, les Bnei Israël, ils n'ont pas eu le choix. Hachem aurait pu obliger les Oumot HaOlam aussi. Il aurait pu les contraindre. Donc, d'abord, si vous voulez, ce que Hachem dit là dans Anochi Hachem Elokecha, ça veut dire on ne comprend rien si on n'a pas d'abord conscience de l'amour d'Hachem pour le clan Israël. Et que dans son amour pour le clan Israël, il a fait en sorte d'aider le clan Israël à ne pas tomber dans l'idolâtrie. C'est comme ça qu'il faut interpréter le fait qu'il a accepté ce que, en fait, ça veut dire quoi? Il a accepté les demandes d'Ebné Israël. Les demandes d'Ebné Israël, en fait, elles étaient inacceptables. Parce que l'homme ne peut pas vivre et voir et entendre Hachem. D'accord? Ça, c'est pas bon. Donc, normalement, on aurait dû leur dire non. Mais si je leur avais dit non, alors ils auraient été comme poussés vers l'idolâtrie. Alors je leur ai dit oui.
Je m'entends différemment.
C'est possible. Je n'ai pas l'exclusivité.
Je dirais moi que dans le contexte qui se présente, puisqu'en définitive, Hachem porte son dévolu sur l'Israël, il a choisi, c'est eux qui vont recevoir. Quelle pourrait être l'attitude
Oui, mais on ne dit pas qu'ils auraient eu tort. Il fallait demander. Oui. Mais lui, il aurait dû dire non.
Voilà.
Non, mais je ne dis pas qu'on ne les comprend pas. Ils ont demandé ce qu'ils ont demandé. C'est pas. Oui, personne ne dit que c'est mal, pas bien. Ce qu'Hachem dit, c'est que j'aurais dû dire non. Pourquoi pas? Puisque ça veut dire vous allez mourir. C'est pas qu'il dit non. Il dit si vous. Loirani Adam Vachai. Le pasouk dit un homme ne peut pas me voir et vivre. Et ça entraîne la mort. Le Midrash, il ne va pas dans ce sens que vous dites. On aurait pu développer cette idée peut-être plus tard, mais le Midrash dit simplement que, effectivement, ça, ce qu'il demande, ce que demande l'Ebné Israël, on comprend qu'il le demande, mais Hachem lui-même aurait dû leur répondre. Comme il l'a répondu à Moshe Rabbeinu. Lo irani Adam Vachai. Moshe Rabbeinu aussi l'a demandé ça. Il a demandé un peu plus, puisque lui, il avait déjà eu ça, et il a bien compris que tu ne nous as pas tout dévoilé. Alors, montre-moi un peu plus. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, non, c'est pas possible, tu ne pourras pas vivre sinon. Ça veut dire qu'en réalité, comme on sait, il y a les choses qui ne se dévoilent qu'au moment de la mort. Il existe un moment où effectivement des choses vont se dévoiler et où l'homme peut le supporter parce qu'à ce moment-là il est presque mort. Dans le processus de mort, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se dévoiler. Ils ont pu accepter la Torah, mais sans tout le dévoilement, la voix d'Hachem et le kavod, tout ce qu'ils ont vu, etc. C'était trop. Il fallait mourir. Ils étaient précipités en arrière et ils mouraient. Dans la Gemara, il dit simplement, ils ressuscitaient. Le Midrash dit ici, c'est la Torah qui a demandé à Hachem de les ressusciter. Justement, la Torah qu'ils avaient acceptée demande à Hachem de les ressusciter. Alors Rabbi Levi dit, mais on ne comprend pas, puisque Hachem savait bien qu'ils allaient mourir. Pourquoi il a accepté? Oui, mais là c'est la Torah qui demande, donc c'est pas la Torah, c'est la fille du roi qui demande. Oui. De faire quoi de?
De se dévoiler entièrement et qu'il meurt et qu'il ressuscite.
Oui. Oui, c'était nécessaire pour la suite, semble-t-il. C'est nécessaire pour la survie pour la suite des Bnei Israël. Parce qu'il y aura de l'idolâtrie, alors c'était nécessaire. Non, mais ça, si vous voulez, vous pouvez le dire. C'est pas marqué dans le Midrash. Mais vous pouvez le dire. On a le droit de le dire. Mais ça, c'est. Si vous voulez, c'est le commentaire d'Ilan. Qui est tout à fait légitime et tout à fait audible. Mais le Midrash, il veut dire, ce qui l'intéresse ici, c'est qu'est-ce que, quand Hachem dit Elokecha, d'abord ça veut dire qu'il y a cette notion d'amour. Il faut poser ça. Si tu ne poses pas ça, que Hachem nous aime et qu'on a un statut à part, tu ne comprendras rien du tout. Et après, il y a un problème. C'est qu'Hachem a accepté une demande des Bnei Israël qui en fait était mauvaise pour eux, parce qu'ils allaient en mourir. Alors finalement, Hachem dit, c'était pas complètement mauvais. Parce que, bon, Rachamim, c'est aussi Hachem. La Torah, c'est Hachem, tout ça, c'est Hachem. Donc Hachem dit, ben, si j'avais dit non, alors je les aurais naturellement poussés vers l'idolâtrie. Et donc je leur ai dit ça pour les aider à ne pas tomber dans l'idolâtrie, bien que je sache pertinemment qu'ils allaient le faire. C'est un peu étonnant comme c'est écrit. C'est que beaucoup de Safa, il a vu qu'ils allaient pratiquer l'idolâtrie. Pour qu'ils ne puissent pas dire que finalement cette idolâtrie, on l'a pratiquée parce que Hachem n'a pas voulu venir à notre rencontre en quelque sorte. Il n'a pas accédé à notre demande. Il ne s'est pas montré à nous. Alors Hachem dit, okay, vous allez faire l'expérience, je me montre à vous. Bien que ce soit très mauvais pour vous, par ailleurs, et que vous allez expérimenter la mort, etc. Bon, alors ensuite vous allez ressusciter. Vous avez, bon, et à la limite, cette mort-là, c'est un peu compliqué parce que c'est parce qu'ils ont eu peur de mourir qu'ils ont arrêté d'écouter la voix d'Hachem. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas parler, parce que la voix d'Hachem, on en meurt. On n'arrive pas à comprendre, je veux dire. Alors, en tout cas, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas que les Bnei Israël puissent dire, c'est parce qu'Hachem ne s'est pas montré à nous qu'on a fait l'idolâtrie. Donc ça veut dire qu'ils vont pratiquer l'idolâtrie sans avoir de bon argument, quoi. Hachem n'a pas du tout gagné qu'il n'y aura pas d'idolâtrie. Il a seulement gagné qu'ils ne vont pas pouvoir dire c'est parce qu'Hachem ne s'est pas montré à nous. Qu'est-ce qu'on a gagné là? Big deal, je veux dire. D'accord, l'idolâtrie, elle est faite quand même. Oui.
Ça fait partie de tout le processus, si on peut dire, de préparation, de cette capacité que nous sommes supposés avoir, de recevoir.
Oui.
De la même façon que pour faire pousser, sortir quelque chose de terre, on met d'abord une graine, et la graine a une pourrie.
Oui.
Donc elle meurt. Et pourtant, après elle repousse. Donc c'est un processus. Peut-être d'une façon un peu schématique qu'on peut mettre en parallèle. On avait besoin de passer par ce processus de mort, de mort, et puis ensuite de continuer à.
Oui, mais le Midrash essaie d'expliquer pourquoi on en est passé par là. Il y en est passé par là parce que les Bnei Israël voulaient, et disons que c'est tout à fait légitime de l'avoir demandé, mais qu'il aurait fallu dire non, mais si Hachem disait non, alors il aurait été complice de leur idolâtrie. D'accord ? Bon, on peut regarder ça, c'est un peu étrange. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? Enfin, c'est ce que dit le Midrash ici. Qu'est-ce qu'on a gagné au fait que on ne peut pas dire que c'est parce qu'Hachem ne s'est pas montré à nous? L'idolâtrie, elle est là quand même. C'est-à-dire, comme si une idolâtrie où on incriminerait Hachem serait plus grave qu'une idolâtrie dans laquelle on n'incriminerait pas Hachem. Mais c'est idolâtrie quand même.
L'idolâtrie est là, mais justement, on a l'acquis des événements passés qui permettent de la dépasser.
On ne l'a pas dépassé, on a demandé la suppression du Yetzirah d'idolâtrie.
Mais peut-être que fallait le demander, fallait le vouloir. On ne savait pas à nous, on ne savait pas à
nous. Oui.
C'est une sorte de prétexte
qu'ils venaient
Israël.
Oui.
En fait, la raison pour laquelle
ils font
l'idolâtrie, c'est
autre chose. Oui, sans doute, oui. C'est pour ça que je
veux
comprendre pourquoi.
Au moins qu'ils ne voient
pas. Pardon ?
Au moins qu'ils ne se pensent pas eux-mêmes, qu'ils ne puissent pas se mentir eux-mêmes.
C'est ça, c'est-à-dire que. Ça viendrait de vous entièrement et pas de moi, quoi. C'est pas que Hachem lui-même fabrique des situations où on ne peut être qu'idolâtre, quoi, quelque part. Ça vient de l'homme. L'idolâtrie, elle ne vient pas d'Hachem.
C'est bien qu'on a une autre référence.
Non, mais c'est l'Yetzera qu'Hachem a créé, donc ça vient d'Hachem de ce point de vue-là, mais. Mais pas cet argument-là. Je vous enlève cet argument massu. Au prix de la mort, en fait. Au prix de l'expérience de la mort. C'est un peu d'autant plus surprenant que quand les Bnei Israël ont accepté la Torah au Sinaï, ils sont devenus immortels. Ils sont redevenus immortels, comme Adam Harishon l'était avant la faute. Donc, si vous voulez, cette mort-là, qui leur arrive, c'est une mort qui vient à des gens qui sont immortels. Donc, ce n'est pas la mort au sens habituel du terme. Ce n'est pas une mort qui vient. Ce n'est pas du tout la mort qui vient à la fin de la vie, quoi. C'est une mort qui vient par amour. Comme la Neshama s'en va chez Hachem. Il y a tellement d'amour que. Bon, voilà. Donc c'est pas la mort au sens habituel du terme. Cette mort-là, c'est une forme, je vais pas dire que c'est une forme de vie, mais c'est quelque chose de. C'est presque une mort par excès de vie, quoi. J'ai pris trop de vie, hein, comme quelqu'un qui mourrait de ce qu'on lui a donné trop d'oxygène. On a voulu l'aider et il va en mourir. Quand ils ont accepté la Torah. Pas des minutes, des secondes, peu importe. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas dans le temps. Donc il s'agit d'une autre mort que de la mort habituelle. Mais la. Dans les métaphores qu'utilise la Torah du père qui tue le Khatan, en fait, ou du monde qui est en joie, sauf les enfants d'Hachem meurent. On présente ça comme si c'était la mort au sens habituel du terme. C'est une mort, mais ce n'est pas la mort au sens habituel. Oui, mais ils sont morts parce que par Hanishmatan. Ils n'ont pas supporté, mais pas C'est pas une faute, c'est il supportait pas parce que le. C'est comme quelqu'un qui deviendrait aveugle d'avoir regardé le soleil. Et c'est pour ça qu'on dit, demande à Hachem, et tu, comme Rabbi Lévi dit, Rabbi Lévi, il dit, bah, Hachem, il le savait bien. Alors la réponse est étrange. La réponse est, il va y avoir de l'idolâtrie, et je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est de mon fait. C'est à cause de moi qu'il y a l'idolâtrie. Que Israël puisse dire l'idolâtrie, elle était. Comme si au fond. On ne peut pas faire autre chose que d'être idolâtre. Vu qu'Hachem nous demande une croyance, une émouna, quelque chose de tellement abstrait, dont on n'entend jamais la voix, dont on ne voit rien du tout, etc., c'est trop dur. Donc on n'a pas d'autre solution que de se tourner vers l'idolâtrie. Alors non, je me suis manifesté, mais et vous ils vont dire, ils disent pas d'ailleurs les Bnei Israël, mais on en est mort. Ils disent Hachem nous a montré, il nous a parlé. Comme si. Alors, tiens pas, oui.
Mais cette mort ne peut pas aussi dans le sens que ils ont vu qu'ils pouvaient libérer leur corps. C'est une libération du corps, en fait, cette
mort. Sauf qu'on a l'impression plutôt qu'ils sont restés avec leur corps, c'est tout, puisque la Neshama est partie. Oui, bon, même si on dit comme ça, alors que, et donc, parce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'on gagne là, s'ils ont vu qu'ils se sont libérés du corps alors?
C'est dans ce sens-là qu'ils ne pourront pas dire que c'est un peu le corps qui fait.
Ah, c'est. Comme ça. Il n'y aurait pas de parole d'Avodazara. On va laisser la Avodazara uniquement comme un sans-parole, comme un. On aura des pâquerettes, c'est des actes. Hein, peut-être, oui.
Et que là, ils ne pourront pas dire.
Oui, oui, c'est une possibilité. L'accent, il serait sur la parole, quoi. C'est. Donc tout ça, toute cette démarche-là, il faut l'entendre dans le fait que Hachem s'adresse à nous et il nous dit « Elokecha ». Que David Ameller dit plus explicitement, je suis Elohim, Elokecha, Anochi. Bien que je sois Elohim, je suis aussi. Donc il dit Anochi, Hachem, Elokecha. Il manque Elohim, si on veut dans l'affaire. On passe directement d'Hachem à Elokecha. Bien, on s'arrête là. Pardon. Non, mais Elokecha, c'est déjà décliné. C'est Elokecha, donc. Elokim, c'est la généralité. C'est pour tout le monde, oui. Pardon? Pour toutes les créatures.